Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Sébastien Guyot.
Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes certainement très nombreux à écouter Europe 1, en particulier ce matin. Depuis 2007, vous aviez rendez-vous avec Mediapolis le samedi. Suite au départ d'Olivier Duhamel, Mediapolis s'arrête. Et nous vous proposons un nouveau rendez-vous sur l'antenne. C'est le retour des grandes voix, les grandes voix historiques d'Europe 1. J'ai nommé Catherine Ney, Michel Cotta, Charles Villeneuve, bonjour. Gérard Carrérou, bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Quatre grandes voix, quatre grandes figures du journalisme en France. C'est un plaisir de vous retrouver. Je suis très heureux de vous accueillir chaque samedi, désormais à 10h, pour une heure de débat, de décryptage, une heure de débat et trois grands thèmes. En ces temps d'immédiateté de l'info, de réseaux sociaux, on va se poser, on va prendre le temps. On va s'écouter, analyser, décrypter. Vous allez peut-être parfois vous quereller.
Non.
Mais toujours dans le plus grand respect, je vous connais et je compte sur vous. N'est-ce pas ?
Ça, c'est sûr.
Et grâce à vous, grâce à votre expertise, vous, les grandes voix d'Europe 1, eh bien, nos auditrices, nos auditeurs devraient ressortir de cette heure de débat plus informés, mieux informés. Sommaire. La démocratie américaine assiégée, les images ont fait le tour du monde avant cette volte-face inattendue de Donald Trump.
À ceux qui se sont lancés dans la violence et la destruction, vous ne représentez pas notre pays. Et à ceux qui ont enfreint la loi, vous devrez payer.
Une fin de règne chaotique, passation de pouvoir avec Joe Biden dans 11 jours. Donald Trump n'y participera pas, il l'a dit hier. Qu'est-ce qu'il va se passer d'ici là ? Trump va-t-il annoncer sa candidature pour 2024 ? Est-ce vraiment la fin du Trumpisme ? Deuxième thème de cette émission, les vaccins.
Je pense qu'on a été un peu trop défensif dans la façon d'aborder le vaccin.
Le mea culpa d'Olivier Véran sur la stratégie vaccinale du gouvernement. Après les masques et les tests, y a-t-il eu des ratés, voire un naufrage de la politique gouvernementale ? Vous allez l'analyser dans un instant. Et puis cette question.
Qu'est-ce qu'il y a de mitterrandien chez Emmanuel Macron ?
D'être président.
La réponse cinglante de François Hollande à Yann Barthès sur Quotidien, alors que le chef de l'État s'est recueilli hier sur la tombe de François Mitterrand. Macron sur les traces de Mitterrand à 16 mois de la présidentielle. Y a-t-il des arrière-pensées politiques ? Hâte de vous entendre les grandes voix, vous qui êtes tous des experts avertis de la 5e République. Pour débuter cette émission, donc, à coup sûr, l'image de la semaine. Ce coup de force qui a sidéré le monde entier, le Capitole. Le cœur de la démocratie américaine, pris d'assaut par des partisans de Donald Trump. C'était mercredi, du jamais vu dans l'histoire de l'Amérique, ou presque, parce qu'on va faire un peu d'histoire, on va apprendre des choses dans cette émission. Il y avait eu un précédent, n'est-ce pas ?
Bon ben, un précédent des Britanniques, des troupes britanniques. De toute façon, vous savez que les Anglais, ça hausse tout, notamment en matière militaire. Ça n'est pas des obligeances que je dis, mais c'est en 1814.
D'ailleurs, 1814.
L'année qui annonce aussi sur le territoire européen Waterloo, entre les troupes britanniques, pas seulement britanniques d'ailleurs, et celle de Napoléon.
Et le Capitole avait été brûlé cette
nuit. Et la Maison Blanche aussi.
Et la Maison Blanche en août 1814. Mais pour montrer à quel point on vit des jours historiques en ce moment, il reste 11 jours donc, hein, avant la prise de pouvoir de Joe Biden. On se demande bien ce matin ce qui va encore se passer après le dernier rebondissement en date. Hein, c'était hier soir, Donald Trump qui annonce sur Twitter, avant que son compte ne soit suspendu de manière permanente, qu'il ne participera pas à la passation de pouvoir le 20 janvier. Alors c'est déjà arrivé, mais pas beaucoup. Et ça remonte à longtemps qu'un...
Trois fois au 19e siècle. Oui.
Voilà. Et la dernière fois, c'était en 1869. Oui. N'est-ce pas, les grandes voix ?
Après 1869. La guerre de...
Andrew Johnson, la guerre de sécession. Que vous avez tous bien connu.
Il était en grosse difficulté, d'ailleurs.
Andrew Johnson qui avait refusé d'assister à la succession. Alors, on va revenir dans la deuxième partie de ce débat sur l'avenir de Trump, sur une éventuelle candidature en 2024. Mais d'abord, cette question, les grandes voix. Barack Obama a dit que c'était un moment de déshonneur, de honte. On a vu la honte affichée à la une des journaux américains le lendemain de ce qui s'est passé. Gérard Carrérou, je me tourne vers vous. Ça fait 45 ans que vous sillonnez l'Amérique. Vous connaissez très bien les États-Unis. Est-ce que c'est la honte pour les 74 millions d'Américains qui ont voté pour Trump ?
Évidemment non. Si vous voulez, là, c'est une réponse générique, générale que vous me demandez. Évidemment non. Alors, il ne faut pas non plus... Je ne suis pas là pour, être l'avocat de Trump ou diminuer les décisions regrettables et condamnable qu'il a pu prendre. Parce que c'est, il faut le dire dès le début, parce que sinon, c'est appeler à, quand on a une foule excitée de plusieurs dizaines de milliers de personnes, leur dire, et puis on va se retrouver au Capitole, c'est, j'allais dire, un appel au meurtre. C'est pas un appel au meurtre, mais c'est un appel à la violence, à aller manifester. Donc, je condamne cette initiative. là, vous me posez la question
je,
de dire est-ce que
pas,
c'est.
Je me pose du côté
oui,
du Trumpiste.
J'ai bien compris. J'ai bien compris. Donc, est-ce que c'est. Alors, moi, je vous ai donné ma réponse, mais ces partisans, les 74 millions, il y a eu 74 millions d'un côté, 81 millions de l'autre côté. Bon, ça veut dire 52-48 en termes de pourcentage en France. 52-48, ça veut dire que Biden a bien été élu. Bien élu, donc il est légitime. Mais pour les partisans de Trump, qui ont été effectivement excités sur l'idée qu'il y avait eu tricherie jusqu'au bout par les messages de Trump, ces gens-là, il y en a une partie qui continueront, et je pense la plus très franchement la plus grosse partie, je ne veux pas faire de pronostic, mais la plus grosse partie continuera à être fidèle au trumpisme, parce qu'on en parlera sûrement tout à l'heure, le trumpisme, c'est autre chose qu'une manifestation insurrectionnelle ou une émeute sanglante, il y a eu 5 morts, au Capitole. C'est bien autre chose que ça sur le plan de la sociologie et de la politique.
De toute façon, les premiers sondages commencent à arriver et confirment tout à fait ce que dit Gérard, puisque environ 60% des républicains...
Mais il y a eu d'autres sondages en baisse.
Mais qui donnent raison quand même, qui comprennent le mouvement et qui sont persuadés encore que la victoire a été volée. Donc, ça pose tout le problème du Parti républicain et notamment de ses élus. Parce que les élus représentent en principe les électorats. Les élus, même s'ils ont envie maintenant de prendre la distance, certains élus, en tout cas, vis-à-vis du président sortant, de Trump, se disent « Oui, mais c'est très bien, mais comme l'électorat est contre moi, peut-être que je ne serai pas réélu. » Et d'ailleurs, ça explique quand même beaucoup la division apparente des républicains. Et pourtant... C'est sur les républicains que tout va reposer maintenant, parce que où ils acceptent la transition, ou effectivement, à chaque moment, ils essayent de la combattre.
D'ailleurs, hier soir, pour la première fois, il y a une sénatrice du camp républicain qui a appelé Donald Trump à démissionner. Certes, une sénatrice modérée, mais ça pose le problème, les grandes voix. Catherine Ney, du camp républicain, qui va-t-il suivre ou non Trump derrière ?
Sur les militants, bon, comme le dit Gérard, c'est quand même... Donald Trump qui leur a demandé de démissionner. Puis après le grabuge et puis quand même 5 morts, sa première vidéo, où d'ailleurs il est apparu avec les cheveux blancs tout d'un coup. Et alors, il ne condamnait pas les violences, mais il aurait dit « on s'aime, rentrez chez vous ». Enfin, c'était bienveillant et puis il ne condamnait pas. Oui. Et puis réapparaît hier soir. Alors là, il a de nouveau ses cheveux jaunes. Je ne sais pas, il a l'air toujours d'avoir son écureuil sur la tête. Mais là, pour les militants qui sont venus, il leur dit c'est odieux, c'est une attaque odieuse, il faut se réconcilier, scandaliser par la violence. Alors il les pousse au crime et après il les lâche. Moi, je pense que le chef, on se dit, bon, il doit être sous. C'est parce qu'il a peur, c'est parce qu'il y a des menaces, on veut le faire destituer. Je crois que sa fille est venue le voir pour dire écoute, arrête. Et là, maintenant, tu joues contre toi.
Et il est intervenu à la télévision. Ouais. On l'a entendu. On va l'écouter, d'ailleurs, tout de suite sur Europe 1, ce moment où il souffle sur les braises avant de faire volte-face et de condamner ces scènes de violence.
Les manifestants qui ont infiltré le Capitole ont défié le siège de la démocratie. À ceux qui se sont lancés dans la violence et la destruction, vous ne représentez pas notre pays. Et à ceux qui ont enfreint la loi, vous devrez payer.
Charles Villeneuve, Catherine Ney disait peut-être que sa fille l'a appelé en lui disant « arrête ». Est-ce que vous pensez qu'il est intervenu de cette façon-là parce qu'il y a eu des défections de ses ministres, de son entourage, parce qu'il avait peur d'être destitué ?
Non, moi je crois que surtout en tant qu'ancien président, il redevient un citoyen ordinaire. Et partant de là, comme il a soufflé sur les braises, évidemment les vidéos en témoignent, et il est susceptible d'être poursuivi si vous voulez, pour avoir justement soufflé sur les braises. Et dès lors, ça peut le priver de continuer à faire de la politique. Car moi, je suis intimement persuadé, comme Gérard d'ailleurs, qu'il continuera à faire de la politique. Les 74 millions
d'électeurs, Trump,
ça n'est pas rien. Parce que Trump est l'écho de la crise de la société américaine. Comme d'ailleurs, un certain nombre, il ne faut pas oublier quand même que chez nous, les Gilets jaunes ont mis à sac l'Arc de Triomphe, place de l'Étoile à Paris, qu'ils ont failli prendre en otage un ministre qui a été évacué au dernier moment, et qu'il y a eu des mouvements assez importants, notamment rue du Faubourg-Saint-Honoré, pour pénétrer dans l'Élysée. Il a fallu mobiliser aussi bien, si vous voulez, les blindés de la gendarmerie nationale qu'évidemment les escadrons de CRS. Donc cet écho-là, de toute façon, il est toujours présent. Il y a une fracture, il y a une... une brisure importante dans la société américaine. Elle ne va pas disparaître du jour au lendemain. Et quand vous avez une masse de 74 millions d'électeurs, croyez-moi qu'ils ne vont pas oublier. C'est en cela d'ailleurs, et j'adhère totalement à la, au développement, à l'analyse de Gérard, quand il dit de toute façon que les 200 excités, si vous voulez, qui ont pris d'assaut le Capitole, qui n'ont pas pris en otage, ils auraient pu le faire, notamment un certain nombre de députés du Parlement, ne serait-ce que la présidente, Mme Pelosi, hein, qui est une anti-Trump acharnée, eh bien, à partir de là, si vous voulez, je crois que son retrait, sa volte-face, est sage, si j'ose dire.
D'un mot, Catherine.
Moi, je crois d'abord qu'il a été
pause.
Lâché. Tout le monde s'en va. Hein. Ces ministres les plus fidèles qui démissionnent. Le ministre de la Justice qui parle de trahison.
Ouais.
Quand même, tout le monde s'en va. Et puis surtout, s'il veut continuer à rameuter la troupe, il n'a plus Twitter. Comment il va communiquer avec eux? Comment il va faire vivre la flamme? C'est ça.
Parce que c'est 88 millions de followers hein, pour Donald Trump, on le rappelle. On va parler dans un instant, Michel
Cotard. Oui, je peux dire juste, je ne suis pas du tout d'accord. Catherine, je ne suis pas du tout d'accord. Je crois qu'il y avait deux possibilités pour Trump. C'était le, alors pour le coup, ce qu'on avait, certains ont dit, le baroud d'honneur et après, il disparaît de l'histoire. Et le trumpisme n'aurait été qu'une parenthèse de 4 ans. Ou alors, il a une démarche, effectivement. Et moi, je crois que, y compris dans son revirement d'avant-hier ou d'hier soir, il y a effectivement la démarche. Alors, on dit, ou c'est fini, ah, ouf, on est débarrassé de Trump. Parlons maintenant avec des gens sérieux, Biden, etc. Ou alors, on croit qu'il y a quelque chose qui a commencé avec le Capitole, mais qui n'est pas terminé, et c'est ce que je crois, et un certain nombre d'analystes
On va en parler dans un instant. On marque une première pause, les grandes voix. Je sais que vous avez envie de parler, vous avez envie de nous dire beaucoup de choses et de décrypter tout ce qui se passe. On va parler de cette scène d'insurrection, de ce qu'elle dit de la fragilité de nos démocraties, juste après cette courte pause.
Europe 1. Sébastien Guyot.
Le retour des grandes voix autour de cette table sur Europe 1. Catherine Ney, Michel Cotta, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou. On parle dans ce premier thème du débat de l'avenir des États-Unis, de l'avenir notamment de Donald Trump. Il n'a plus que 11 jours à la tête de la présidence américaine. Mais malgré tout, du côté démocrate, on veut le destituer, Michel Cotta, avec soit le 25e amendement de la Constitution, pour dire qu'il est inapte, soit une procédure d'impeachment.
Alors, on comprend pourquoi, évidemment. C'est que il ne faut pas, dans l'esprit de Nancy Pelosi et de ses
Nancy
amis,
Pelosi,
du président
de la Chambre des représentants.
Il ne faut surtout pas que Donald Trump reste en piste dans les 4 ans qui viennent. Parce que d'abord, ça va leur empoisonner la vie. Et ensuite, comme on l'a dit, il a quand même des soutiens derrière lui. Par conséquent, la seule façon, ce serait évidemment de décréter un impeachment qui l'éloigne pendant longtemps de la vie politique.
Il l'interdit.
Alors le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Autant 11 jours, c'est assez pour que Donald Trump fasse une grosse bêtise pour montrer qu'il existe. C'est pas sûr, moi j'y crois pas, mais enfin bon. Mais autant 11 jours, c'est pas suffisant pour avoir un impeachment.
Oui, mais Michel Cotta,
Par conséquent, il jouera un rôle et il continuera sans doute à jouer un rôle dans la vie politique, à moins que, évidemment, son esprit l'amène à construire d'autres tours ailleurs, peut-être.
Sauf que si la procédure est lancée, quand bien même elle n'arrive pas à son terme dans les 11 jours, elle va pouvoir se poursuivre et il pourrait être rendu illigible dans les 4 années à venir, ce qui l'empêcherait d'être candidat en 2024.
Moi, je n'y crois pas. Simplement un mot. Je pense qu'il sera mis, si vous voulez, en quelque sorte, ça n'est pas tout à fait comme ça que le droit américain marche, mais il sera mis en examen pour incitation au désordre. Ça, vraisemblablement, il n'y échappera pas.
Oui, mais il peut, gros coup, c'est annoncer sa candidature pour dans 4 ans, peut-être le jour de l'investiture.
Oui, un certain nombre de choses qui me paraissent invraisemblables. Je crois qu'il n'y aura pas d'impeachment, par exemple. Il y aura peut-être un vote à la Chambre des représentants qui fera l'impeachment, mais après, comme il faut déférer le président à ce moment-là devant le Sénat, même s'il y a une majorité maintenant démocrate, le temps sera passé. Donc il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas non plus nous a sorti le 25e amendement, le vice-président déclare le président fou, etc. Il n'y aura pas ça non plus. Tout ça, c'est l'écume pour l'instant.
Et toi,
je ne crois pas du tout.
Tweets...
Mais alors, il reste ce qu'a dit Catherine, c'est très important. Parce que On sait bien que faute d'avoir un soutien des médias, les médias américains, il faut bien dire les choses, je l'ai dit plusieurs fois sur l'antenne ici, à 80% les médias américains ont été contre anti-Trump. Les grands médias, hormis Fox News, on dit toujours Fox News, mais Fox News c'est une des quatre grandes chaînes, et puis il y a toute la presse par ailleurs. Donc les médias échangés, il a gouverné du coup. Il a contrebalancé l'hostilité générale des médias à son égard avec les réseaux sociaux, avec Twitter. Mais je ne crois pas, ou alors l'Amérique serait dans une évolution vers quelque chose d'autre qu'une grande démocratie, l'Amérique ne peut pas maintenir une sorte d'interdiction Twitter, Trump interdit de Twitter ad vitam aeternam, c'est un pas vers une Amérique maccartiste qui ressemblerait fâcheusement, à mon avis, pour ceux qui l'aiment comme moi, qui ressemblerait fâcheusement à la Chine, dont on nous dit sans arrêt, à juste titre, qu'elle est contrôlée par le Parti communiste, ou à l'Iran, des Mollahs, etc.
Et qui n'arrive pas à tout contrôler. Oui, et qui n'arrive pas à tout contrôler.
Non, je veux dire, je ne crois pas un instant que l'interdiction de Twitter puisse aller au-delà de quelques heures, quelques jours.
Alors, je voudrais qu'on avance la démocratie. Sur ce qui se cache derrière ce qui vient de se passer, justement, en termes de fragilité de nos démocraties. On a vu des réactions dans le monde entier. Bien entendu, les prédécesseurs de Donald Trump, Barack Obama, George Bush Jr., qui dit des scènes dignes d'une république bananière, Bill Clinton. Et puis en France, au plein milieu de la nuit, 3h25 du matin, Emmanuel Macron qui prend la parole en français et en anglais.
What happened today in Washington DC is not America. Definitely. We believe in the strength of our democracies. We believe in the strength of American democracy.
Et Catherine Ney, cette déclaration d'Emmanuel Macron en pleine nuit, ça traduit quelque chose, une inquiétude?
Oh ben non, mais il voulait jouer un rôle. À 2h15 du matin, il s'est mis à l'heure américaine. C'est pour que ça soit envoyé sur les réseaux américains. Mais ce que j'ai trouvé un peu ridicule, c'est la mise en scène. Parce que
le drapeau
Madame Merkel aussi a dit qu'elle était inquiète. Mais lui, drapeau américain, drapeau européen, drapeau français, et puis à un moment, il a eu cette phrase, nous ne céderons rien. Alors, nous ne céderons rien. Alors, il part en guerre aux côtés des États-Unis contre les Trumpistes. Ça veut dire quoi, vous voyez?
Non, ça veut dire qu'il a passé pardon.
Mais moi, j'ai trouvé ça, cette mise en scène un peu grandiloquente et...
Michel Cotard. Voilà,
j'ai pensé à Ubu Roi. Voilà. Ubu Roi du monde. Que l'essentiel, roi du monde.
Moi, je trouve qu'effectivement, le drapeau américain était peut-être de trop, j'en sais rien. En attendant, il a quand même posé la question sur la question de la démocratie. Et c'est vrai que la définition de la démocratie, c'est que la loi de la majorité s'impose à la minorité. Or, ça ne s'est pas fait en Amérique, ça ne s'est pas fait ce jour-là. Donc, il l'a fait. Qu'il veuille effectivement jouer un rôle et même dire que pour lui, la démocratie, c'est la majorité. Car pour le moment, il a la majorité en France. C'est sûr, on voit très bien quel parti... Non, mais on voit très bien quel parti il veut entrer. Mais je trouve qu'il a... Il a posé la question de la démocratie, et c'est effectivement la question qu'on se posait à ce moment-là.
Oui, enfin, la démocratie américaine n'était pas en danger. Écoutez, j'ai entendu parler
la démocratie assiégée par ses complotistes, avez vu ces images, cet homme torse nu, à peau de bison, Jake Angelique.
On en a vu d'autres à d'autres moments, et on en a vu même à Paris.
Mais moi, je vais vous dire, est-ce que vous imaginez...
Mais c'est pas ça que je veux dire. Une seconde, je veux dire un truc très court. On a parlé de terrorisme. Je pense qu'il y a un moment donné où l'inflation verbale et le choix des mots est essentiel. Et le mot terroriste a même été prononcé par Biden, le nouveau président américain. Il faut se méfier de parler terrorisme. Les Américains, vous savez, le terrorisme, ils savent ce que c'est. Le World Trade Center, les 3000 morts, des explosions, des tours. Ils savent ce que c'est. Ça, c'est du terrorisme.
Oui, on a vu des t-shirts avec Auschwitz marqué dessus.
On a vu aussi chez nous des manifestations dans Paris avec Allah Akbar et des étoiles jaunes. Et ça a pas, on n'a pas dit que la démocratie française était pour autant en danger. Il faut, à mon avis, en disant que la démocratie, je l'ai dit dès le début, a été effectivement... Il y a eu une sorte de viol d'une tradition démocratique qui est qu'on ne s'approche pas des parlements. Souvenez-vous du 6 février 34 en France.
Alors, on a tout fait du 6 février 34, voilà. Moi, je vais vous parler de 1923 en Allemagne. L'historien Dominique Moisy fait un parallèle avec le putsch de Munich, avec l'accession au pouvoir avorté d'Hitler et qui est arrivé au pouvoir plus tard. Alors, Charles Villeneuve, vous en pensez quoi?
Le putsch de Munich intervient dans un pays, l'Allemagne, qui est par terre, qui est humiliée, qui est désarmée, qui est assommé par le traité de Versailles, que lui a imposé notamment les Français, Clémenceau, où il faut payer de toute façon des dédommagements considérables. C'est ça, l'Allemagne et le putsch de Munich. De 1918 à 1933, jusqu'à l'avènement d'Adolf Hitler, voté, arrivé au pouvoir démocratiquement par le Parlement, le Reichstag, qui a voté en majorité pour Adolf Hitler, il ne faut pas l'oublier, cette Allemagne-là non plus. Et est-ce que les États-Unis sont dans l'état de l'Allemagne de 1918 après la guerre 14-18?
Donc, mauvaise
comparaison.
Pas. Mauvaise.
Oui.
Merci les grandes voix. On arrête le débat sur les États-Unis pour l'instant. Dans un instant, la stratégie vaccinale du gouvernement. Léger retard à l'allumage ou naufrage? Vous allez nous donner votre réponse.
Europe 1, Sébastien Guillaume.